VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes le 20 novembre 2017 au sommaire. La ZANU-PF, partie au pouvoir au Zimbabwe, veut engager dès demain la procédure de destitution du président Mugabe qui refuse toujours de démissionner.
Moi, je pense que la partie est finie. Dès lors que l'armée a pris position, puisque c'était la base de son pouvoir, c'était le pouvoir de répression militaire et policier.
Au Kenya, deux personnes ont été tuées lors de manifestations contre la confirmation par la Cour suprême de la réélection du président Uhuru Kenyatta. L'extrême nord du Cameroun encore frappé par un attentat qui a fait 4 victimes. Le président soudanais Omar el-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international attendu jeudi en Russie. Et puis ici aux États-Unis, les États-Unis qui désignent la Corée du Nord comme État soutenant le terrorisme. Ne ratez pas dans 10 minutes la Minute Éco et les sports, avec notamment le retour d'Aubameyang avec Dortmund en Ligue des Champions. Tout d'abord, le journal. Le bras de fer continue au Zimbabwe. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, veut engager dès demain la procédure de destitution du président Robert Mugabe, qui a jusqu'ici ignoré les appels à la démission formulés par sa propre formation politique. Des précisions avec Raissa Girondin.
C'est le conseiller juridique de la ZANU-PF, Paul Mangwana, qui a livré l'information aux médias. Le vote de la destitution pourrait intervenir mercredi. Nous avons besoin de 125 votes de la ZANU-PF et 73 du MDC de Tsvangirai pour réussir, car nos parlementaires alliés au G40 pourraient empêcher le vote, a déclaré Mangwana. Selon la constitution zimbabwéenne, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent engager à la majorité simple une procédure de révocation du président. Une commission d'enquête est alors formée pour formuler une résolution de destitution qui doit ensuite être approuvée à la majorité des 2/3. Hier, lors d'un discours télévisé, loin d'annoncer sa démission attendue, Mugabe a annoncé qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son parti. Sur le campus de l'université d'Harare, où les examens ont été reportés, des centaines d'étudiants zimbabwéens ont spontanément manifesté pour, je cite, « pousser enfin Mugabe vers la sortie ».
Au moins 56 personnes ont été tuées, dont 52 par balle, lors de manifestations en République démocratique du Congo entre avril et octobre 2017, selon l'épiscopat congolais. C'est le résultat d'un monitoring des manifestations conduit par 200 observateurs déployés sur le terrain par l'épiscopat. Selon le rapport de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, au moins 56 personnes tuées pendant cette période, dont 52 par balle, 1 par gaz lacrymogène et 3 policiers tués par les manifestants. Dans l'est de la RDC, 6 personnes, dont 2 soldats, ont été tuées lors d'affrontements entre l'armée régulière et l'une des milices actives dans le Nord Kivu. Les combats ont eu lieu près de Beni après l'attaque d'une position de l'armée par une coalition de 2 groupes Maïmaï. Au Cameroun, le bilan de l'attentat survenu tôt ce matin à Kolofata, dans l'extrême nord du pays, passe à 4 morts. Un kamikaze et ses 3 victimes civiles qui fréquentaient le marché de la localité. Les détails avec le correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Une source jointe par VOA Afrique raconte qu'un kamikaze s'est glissé dans la foule sur la place du marché de haricots de la localité de Kolofata. Le kamikaze avait caché la bombe dans un sac de haricots en feignant de couler sa marchandise. C'est sur la place du marché de la ville qu'il a fait exploser la bombe de fabrication artisanale. L'impact de l'explosion a tué le kamikaze lui-même. L'on a également enregistré plusieurs blessés pris en charge par les services de santé et de secours de la ville, selon les témoins. Le sous-préfet de Kolofata et les autorités de sécurité de la ville sont descendus sur les lieux. La ville de Kolofata a toujours été la cible des attentats terroristes attribués aux éléments de Boko Haram. Le dernier s'était produit en août 2017, faisant 8 morts, tous des enfants. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Boko Haram a aussi frappé chez le voisin nigérian hier. Des combattants du groupe djihadiste ont tué 6 agriculteurs en périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria. Par ailleurs, les États-Unis appellent le Nigeria à enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. En visite à Abuja, le secrétaire d'État américain adjoint John Sullivan a déclaré que des enquêtes transparentes et crédibles et des poursuites étaient nécessaires pour permettre aux victimes du conflit de panser leurs blessures. Et puis en Afrique de l'Ouest, le président togolais Faure Gnassingbé affirme qu'un dialogue avec l'opposition est en cours de préparation et devrait avoir lieu d'ici quelques semaines. Déclaration faite à Abidjan par M. Gnassingbé qui se rendra demain à Abuja pour rencontrer le président nigérian Mohamedou Bouhari. Et puis en Guinée, des heurts se sont produits à Conakry lors de manifestations de milliers d'élèves du primaire et du secondaire dénonçant la situation de l'éducation. La Cour suprême du Kenya a validé à l'unanimité la réélection du président Uhuru Kenyatta lors de la présidentielle du 26 octobre, organisée après l'annulation en justice de l'élection du mois d'août et boycottée par son rival de l'opposition Raila Odinga. On fait le point avec Salwa Diafaré.
La plus haute juridiction kényane qui avait pris la décision historique sur le continent d'invalider pour irrégularité l'élection du 8 août, déjà remportée par Uhuru Kenyatta, a estimé que les deux recours dont elle était saisie n'étaient pas fondés. Cette décision pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement signifie que Kenyatta, 56 ans au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. À Nairobi, cette annonce a déclenché des scènes de liesse des partisans de Kenyatta sur les artères principales. Dans les bidonvilles de Kibera et Matare, la colère est vive. La décision de la Cour met un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté l'économie la plus dynamique de la région. Mais la résistance ne semble pas faiblir pour autant. Vendredi, Odinga a promis l'avènement prochain d'une troisième république en référence à l'indépendance acquise en 1963 et à la nouvelle constitution adoptée en 2010.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
VOA Afrique, c'est aussi l'actualité ce soir qui nous renvoie, le franco-rwandais Claude Moyema qui a été renvoyé devant la cour d'assises en France pour complicité du génocide de 94 au Rwanda. Il est accusé d'avoir transporté des miliciens ayant perpétré des massacres de Tutsis. Information révélée ce lundi, mais le juge d'instruction a ordonné depuis le 9 novembre le renvoi aux assises de cet ancien chauffeur d'hôtel pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité par aide et assistance. C'est la troisième fois que la justice française ordonne un procès en lien avec ce génocide qui a fait 800 000 morts selon les Nations Unies. Le président soudanais Omar el-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, est attendu jeudi en Russie où il fera sa première visite peu après la levée des sanctions américaines visant Khartoum. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le conseiller du Kremlin Yuri Utchakov a confirmé que le président soudanais Omar el-Béchir sera reçu jeudi par la Russie. Mais il n'a pas dévoilé le programme du président soudanais. Initialement prévu en août, cette visite sera le premier déplacement d'Omar el-Béchir en Russie. Le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU. Mais il continue de voyager dans certains pays sans être inquiété. Cette visite aura lieu quelques semaines seulement après la levée de l'embargo américain à l'encontre du Soudan par l'administration de Donald Trump, qui poursuit la politique de détente de l'ancien président Barack Obama en l'encontre de Khartoum.
Les États-Unis ont décidé d'inscrire à nouveau la Corée du Nord dans leur liste noire des États soutenant le terrorisme, et ce pour accroître la pression contre son programme nucléaire. En plus de menacer le monde de dévastation nucléaire, la Corée du Nord a soutenu de manière répétée des actes de terrorisme international, dont des assassinats en territoire étranger, a déclaré Donald Trump, le président américain, à Washington. Pyongyang, je le rappelle, avait été retiré de cette liste en 2008. Le chef de la Ligue arabe appelle à préserver le Liban des conflits régionaux au moment où le pays traverse une grave crise politique déclenchée par la démission surprise du Premier ministre Saad Hariri. En annonçant sa démission depuis l'Arabie Saoudite le 4 novembre, le chef du gouvernement avait dénoncé les ingérences de l'Iran dans son pays, notamment à travers le mouvement libanais chiite du Hezbollah. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
L'aéroport international d'Abidjan prévoit de doubler d'ici 5 ans sa capacité d'accueil régional. Ces travaux d'extension comprennent une nouvelle piste pour accueillir de plus gros porteurs de type A380 et un terminal d'aviation d'affaires qui seront construits d'ici 2019. Le coût global, 42 milliards de francs CFA, soit 64 millions d'euros. Selon le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, l'objectif est de doter la Côte d'Ivoire d'un aéroport moderne pouvant accueillir 10 millions de passagers à l'horizon 2025. La reprise de l'économie du Nigeria s'est confirmée au troisième trimestre avec un taux de croissance de 1,4% du PIB, dopé par l'augmentation de la production pétrolière, selon les chiffres officiels publiés lundi. La production pétrolière, qui représente 70% des recettes publiques du Nigeria et 90% de ses revenus d'exportation, avait chuté depuis 2 ans, notamment en raison d'attaques rebelles répétées sur des infrastructures d'hydrocarbures dans le delta du Niger. Le président nigérien Muhammadu Buhari avait présenté début novembre un budget record de 8 600 milliards de naira, soit 20,8 milliards d'euros pour l'année 2018, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente, afin de booster la récente reprise économique du pays. Le constructeur automobile japonais Honda a décidé ce week-end de rappeler volontairement environ 800 millions de ses minivans Odyssey aux États-Unis après avoir constaté que les sièges de la deuxième rangée pouvaient glisser vers l'avant si leur position était modifiée.
Page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
C'est le grand ménage qui continue dans le foot italien.
Eh oui, le président de la Fédération italienne de football, Carlo Tavecchio, a démissionné ce lundi lors d'un conseil fédéral. Et c'est une semaine après l'élimination de la nationale en barrage d'accession à la Coupe du Monde. De nouvelles élections doivent être désormais organisées dans un délai de 90 jours. On rappelle qu'aujourd'hui, l'Italie du foot n'a plus de président de la fédération, plus de sélectionneur, plus de président de la Serie A ni de la Serie B.
Avant-dernière journée demain de la Ligue des Champions en Europe.
Et oui, le groupe E est l'une des rares poules où aucune équipe ne s'est détachée. Liverpool en tête avec 8 points n'a pas un déplacement facile sur la pelouse de son dauphin, Séville. Pendant ce temps, le Spartak Moscou avec 5 points est en embuscade à l'heure de recevoir la modeste équipe slovène de Maribor. Manchester City, impressionnant championnat d'Angleterre, a logiquement dominé sa poule F de la Ligue des Champions. Les Citizens accueillent Feyenoord. Le Shakhtar Donetsk et Naples, qui s'affrontent mardi, vont donc se disputer le deuxième billet du groupe. Le club de la principauté doit absolument battre Leipzig dans le groupe G et espérer un faux pas de Porto sur la pelouse de Besiktas. Enfin, Dortmund est dans une situation très périlleuse dans la poule H où figurent Tottenham et le Real Madrid. C'est simple, si les Madrilènes s'imposent sur la pelouse de la Poel Nicosie, les Allemands devront oublier la Ligue des Champions cette saison.
Le Borussia Dortmund doit battre Tottenham pour continuer à rêver.
Et oui, le buteur star de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, sera de retour après avoir été suspendu un match par son club pour des raisons disciplinaires. Le Gabonais ex-ballon d'or africain avait été privé du déplacement à Stuttgart pour un retard à l'entraînement et le tournage d'une vidéo promotionnelle sans autorisation.
Le monde du tennis en deuil.
L'ex-numéro 2 mondial tchèque Jana Novotná, qui avait notamment remporté le prestigieux tournoi de Wimbledon en simple en 1998, est décédée hier des suites d'un cancer à l'âge de 49 ans. Elle avait remporté au total 24 titres en simple simple et 76 en double, dont 12 en grand chelem.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Le meneur de jeu de Golden State, Stephen Curry, a marqué 39 points avant d'être exclu face aux Brooklyn Nets. Victoire des Warriors 118 à 111. Victoire des Lakers face à Denver 127 à 109. Détroit s'est imposé sur le parquet de Minnesota 100 à 97. Enfin, Toronto a dominé Washington 100 à 91 pour signer sa quatrième victoire d'affilée.
Merci Nicolas. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Et on démarre par le Zimbabwe, la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, veut initier une procédure de destitution contre Robert Mugabe à partir de demain mardi. Une résolution de destitution devant les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, sera déposée conformément à l'article 97 de la Constitution. C'est à la suite de son refus hier de démissionner. Et qu'est-ce qui peut expliquer l'entêtement de M. Mugabe malgré l'ultimatum qui le sommet de mettre un terme à ses 37 ans de règne? Eric Manirakiza a joint à Paris le chercheur Philippe Hugon.
C'est un homme de 93 ans qui a toujours tenu le pouvoir avec énormément de violence dans un régime semi-dictatorial. Il l'a fait par le contrôle de la police et de l'armée, qui étaient ses fidèles, et il ne veut pas lâcher le pouvoir. En même temps, selon lui, c'est sa femme Grace qui devrait prendre la relève, alors qu'elle est extrêmement futile et très impopulaire. Donc il y a effectivement quelqu'un de 93 ans qui s'entête pour rester au pouvoir. Donc c'est pas étonnant, vu la personnalité de Robert Mugabe.
Son parti, la ZANU-PF, veut engager dès demain la procédure de destitution. Est-ce que la partie est finie pour Mugabe ?
Moi, je pense que la partie est finie. Dès lors que l'armée a pris position, puisque c'était la base de son pouvoir, c'était le pouvoir de répression militaire et policier. Effectivement, il y a des divisions très fortes au sein de la ZANU-PF, ça c'est sûr, avec la jeune génération, entre guillemets, proche de Grasse, avec les différentes prétendants, comme l'ancien vice-président Dauphin. Il y a évidemment des luttes de pouvoir à l'intérieur du parti. Et je pense qu'il faut voir aussi que ça peut se jouer par rapport à d'autres personnes, comme Tsvangirai, qui avait gagné officiellement les élections, qui ont été perdues parce que Mugabe a fait un coup d'État à l'époque. Je crois que la grande question actuellement, je crois que l'ère de Mugabe est finie. En plus, l'économie va au plus mal. On est dans quelque chose qui dérape complètement d'un point de vue politique. Donc là, je crois que l'ancien vétéran de la guerre, qui est Mugabe, a perdu de son aura. Et donc, je pense qu'il va quitter le pouvoir. Par contre, je crois que la grande question, c'est de savoir si l'armée va essayer de prendre le pouvoir pour permettre des élections libres. Et dans ce cas-là, c'est pas du tout évident que ça se joue au sein totalement du ZANU-PF, ou au contraire, si de fait il y aura une dévolution du pouvoir par les militaires à celui qui est le plus proche, c'est-à-dire Banka Mukwala.
Lâché par tout le monde, presque, est-ce qu'on peut dire que Mugabe manque maintenant de réalisme politique ?
Oh oui, je pense que ça fait longtemps qu'il manque de réalisme politique. C'est quelqu'un qui, effectivement, a toujours eu le soutien de l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont eu les mêmes combats de lutte contre l'apartheid. C'est quelqu'un qui a été un élément important dans la décolonisation et dans la position anti-britannique, ce qui a joué de sa popularité, mais c'est quelqu'un qui depuis longtemps a beaucoup dérapé dans beaucoup de domaines. Il suffirait de prendre le problème du sida, le problème des homosexuels ou d'autres problèmes dans les relations qu'il a avec sa représentation de l'Occident. Et puis c'est quelqu'un qui n'a tenu son pouvoir qu'en étant très autoritaire, si ce n'est dictateur. Le temps de Mugabe est fini, ça c'est sûr.
C'était Philippe Hugon, joint à Paris.
Bonjour, Eric Manirakiza avec vous ce soir à 18h en temps universel dans À votre avis. Nous revenons sur la situation au Zimbabwe. Contre toute attente, Robert Mugabe n'a pas démissionné. Pourtant, il a été évincé de la direction de son parti, la ZANU-PF. Monsieur Mugabe a été lâché un à un par tous ses soutiens et le peuple. Il se trouve désormais sous la menace d'une procédure de destitution. Que pensez-vous de son entêtement de vouloir s'accrocher au pouvoir ? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001-202-205-26-33. Rendez-vous sur le www.voafrique.com.
Les 5229 victimes qui ont participé au procès Bemba devant la Cour pénale internationale réclament des réparations individualisées. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Pour rappel, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné à une peine de 18 ans de prison en 2016 pour une série de meurtres et viols commis par sa milice, le Mouvement de Libération du Congo, entre octobre 2002 et mars 2003 en Centrafrique. Il a interjeté appel de sa condamnation. Et sur cette question des réparations, Jacques Aristide a joint Karine Bonneau, directrice du bureau justice à la FIDH.
Aujourd'hui, il ressort que les réparations que devraient définir en leur faveur les juges de la CPI sont des réparations surtout qui doivent impacter leur vie quotidienne, qui doivent leur restaurer une facilité de vie, une qualité de vie qui a été complètement perdue depuis que les crimes ont été commis il y a 15 ans. Concrètement, ce que veulent les victimes, c'est une aide pour pouvoir payer les frais de scolarité de leurs enfants qui n'ont pas pu aller à l'école suite au crime. Ce qu'elles veulent, ce sont aussi un financement pour faciliter l'accès à la santé de ces victimes. La plupart des victimes de viol ont contracté le virus du sida. Elles reçoivent gratuitement une cryothérapie, mais elles n'ont aucun autre soutien en termes de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si elles ont d'autres maux liés au sida, elles doivent payer les médicaments et elles n'ont pas l'argent pour le faire. Donc ce qu'elles veulent, c'est effectivement recevoir une indemnisation pour faciliter cet accès à la santé, acheter du paracétamol, acheter des médicaments pour toutes les différentes maladies. Ensuite, c'est aussi pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Donc c'est recevoir une indemnisation pour faciliter le retour au travail, une activité économique qu'elles pourraient développer. Et enfin, parce que ces victimes sont encore aujourd'hui victimes de stigmatisation parce qu'elles ont été violées, des campagnes contre justement cette stigmatisation et pour sensibiliser sur la réalité des crimes qu'elles ont subis et le fait qu'elles sont d'abord des victimes avant d'être coupables d'avoir été victimes de viol.
Les victimes veulent-elles également que ces réparations soient directement financées par Jean-Pierre Bemba? Est-ce possible?
Alors elles ont beaucoup insisté effectivement là-dessus puisque Jean-Pierre Bemba a été condamné pour ces crimes. Elles estiment que donc il appartient aujourd'hui à Jean-Pierre Bemba de payer la réparation qui leur est due. Effectivement, la Cour est en train de saisir des biens de Jean-Pierre Bemba, différentes propriétés qu'il a pu avoir dans différents pays. Et une partie de ces saisies va être utilisée justement pour la réparation pour les victimes.
L'ordonnance de réparation pour les victimes que doit rendre la CPI bientôt doit-elle donc tenir compte de toutes ces revendications?
Nous pensons effectivement que la Cour pénale doit écouter les victimes qui doivent recevoir réparation. Et c'est en ce sens-là que nous avons mené notre enquête. Car aujourd'hui, des experts qui ont été nommés par les juges de la CPI vont rendre aussi leur rapport sur la réparation. Et les juges vont devoir, sûrement, on l'espère très tôt, en début d'année, en tous les cas dans les prochaines semaines, définir des mesures de réparation pour les victimes. Or, si ces réparations ne correspondent pas à ce que veulent les victimes vont se sentir encore une fois trompées, dupées. Et au bout du compte, ces réparations ne seront absolument pas efficaces, puisqu'elles seront même contre-productives. Donc c'est important que la Cour, qui est loin, qui est à la haie, entende réellement la réalité de ces victimes et ce qu'elles veulent aussi pour clore ce processus de justice et de réparation.
C'était Karine Bonneau, directrice du bureau justice à la FIDH.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le Tchad est loin de tourner la page de la crise économique et financière. Et c'est le président de la République Idriss Déby Itno qui l'a affirmé la semaine dernière à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union nationale des commerçants du parti au pouvoir. Il a déclaré que le train de vie des agents de l'État sera réduit. Réaction des responsables des organisations syndicales dans ce reportage d'André Kolmajingar.
Il n'y aura pas d'émergence, ni 2021, ni 2030. Rien.
C'est Idriss Déby Itno la semaine dernière face aux opérateurs économiques militants de son parti. Selon le président Déby, la crise est née du fait que le nombre de fonctionnaires tchadiens est passé de 18 000 en 2008 à 108 000 et le nombre des institutions est passé de 2 à 12 en 2017. Face à cette conjoncture économique due à la baisse du prix du baril de pétrole, il faut revoir la grille salariale de tous les fonctionnaires tchadiens pour l'adapter aux années d'avant-pétrole.
Avec le pétrole, de nouveaux langages sont sortis. Augmentation des prix. Augmentation des salaires. La réalité nous a rattrapés. Maintenant, on est obligé de revenir en arrière. Là où nous étions en 2003, là, on vient là-bas et c'est de là qu'on va commencer. Prime en Saboura. Prime en Kalakana, docteur de Genou. Blue. Prime en Blue. Prime en Blue. En tout cas, oublions cela et nous allons repartir à zéro.
Une déclaration qui a occasionné une sortie médiatique ce week-end de la plateforme syndicale revendicative, un regroupement de 3 centrales syndicales. Les membres de ce regroupement disent non à une éventuelle baisse de salaire des agents de l'État. Parc à Michel en est le porte-parole.
Pendant qu'on vendait le pétrole, là, on a oublié la douane, on a oublié nos recettes administratives, on a oublié qu'il faut investir cet argent-là dans l'agriculture, dans l'élevage pour générer autre fonds demain. Si on avait bien géré cet argent, est-ce que vous croyez que la chute du prix du pétrole peut immédiatement entraîner la situation dans laquelle le pays est plongé? La plateforme ne permettra jamais, au grand jamais, à quiconque de toucher au maigre salaire des travailleurs.
Mise en garde très sévère du côté du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur qui d'ailleurs entame une grève sèche d'une semaine à partir de ce lundi dans toutes les institutions universitaires du pays. Une grève pour revendiquer le paiement des primes et salaires des années antérieures des enseignants contractuels et vacataires. Docteur Dingaudarbi Faustin est le chargé de revendication des enseignants chercheurs.
Nous, à l'enseignement supérieur, aujourd'hui, nous gagnons déjà un demi-salaire. Parce que nos primes dont il est question, ce n'est pas les primes décrétées, mais c'est un élément du salaire qui est mis dans la subvention et c'est ce que nous gagnons. Donc, s'ils osent seulement repartir en 2003, mais cette fois-ci, le Tchad s'arrêtera définitivement.
Toutes ces réactions montrent que l'année 2018 s'annonce difficile pour les fonctionnaires tchadiens déjà paupérisés par les mesures d'austérité prises en fin 2016. André Kodmadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Côte d'Ivoire, la 4e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture, a ouvert ses portes vendredi. Quelques 600 exposants en provenance d'une vingtaine de pays prennent part à ce salon. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
C'est le plus grand rendez-vous du monde agricole, halieutique et forestier de la sous-région ouest-africaine, le SARA, le Salon international de l'agriculture d'Abidjan. Et comme pour les précédentes éditions, ils sont plus de 600 opérateurs économiques ou acteurs du secteur agricole à avoir fait le déplacement d'Abidjan pour montrer leur savoir-faire.
Ousmane Sembara, nous sommes maliens, nous sommes venus avec les Balibali améliorés. Balibali, c'est une race de moutons du Mali. On est venu pour exposer ça, pour montrer au peuple ivoirien et au peuple africain aussi.
Je m'appelle Philippe Koulibaly et je représente l'entreprise Agrobiotech. Agrobiotech est le premier laboratoire commercial de micropropagation par la tissiculture en Afrique de l'Ouest. Donc nous proposons des vitroplants que nous obtenons par multiplication ou par clonage simple. Le SARA est notre toute première exposition et on voit vraiment que la demande est présente ici par rapport aux semences et au matériel végétal de bonne qualité et de fort rendement que nous proposons.
Moi je m'appelle Anne Hébert, je suis en charge de la communication dans un organisme qui s'appelle le CIRAD. Nous travaillons, nous en tout cas en tant que recherche agronomique, auprès de producteurs, auprès de structures locales, auprès des États.
Depuis vendredi, les chapiteaux de ce salon de l'agriculture sont pris d'assaut chaque jour par des milliers de visiteurs. Et parmi eux, il y a ceux qui sont à la recherche d'opportunités d'affaires.
C'est vrai qu'on est ivoirien, mais on ne vit pas forcément ici. Donc on vient voir un peu ce que le pays a à offrir. Et puis si on a des opportunités aussi, c'est d'essayer de poser des questions pour que les professionnels présents à ce salon puissent donner des éléments de réponse. Notamment si on veut s'engager dans l'agriculture, dans les produits vivriers, il y a énormément d'opérateurs économiques qui sont là et justement ça permet de poser quelques questions et puis après on peut se faire une certaine idée et puis on peut se lancer justement dans ce genre d'activité là. Donc voilà ça.
Je suis passé voir il y avait quoi et puis m'imprégner un peu des réalités, puis voir s'il y a du matériel, surtout dans le domaine phytosanitaire, puisque au village on aide un peu les dames à faire des maraîchères et tout ça. Donc on est venu, on a vu, on a vu. Maintenant on va essayer de voir après ce qu'il y a comme contact. Mais déjà, je vois que c'est bien. Il y a beaucoup de choses.
La transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, c'est le thème de cette 4e édition du SARA qui refermera ses portes le 26 novembre prochain. Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph. À la console, John Dryden. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. En restant en contact sur Facebook, rendez-vous également sur notre site voafrique.com. Dans quelques secondes, un autre point sur l'actualité avec Henri Francis. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.